il faut distinguer plusieurs sons au niveau des pierres. On a des sons techniques. Ces sons techniques, ce sont des tapotements que l'on peut provoquer sur les matériaux lithiques pour essayer de savoir si le matériau est apte à subir un certain nombre de travaux. Par exemple, là récemment, avec l'association Archéo Arménie, on est allé en Arménie et nous avons obtenu l'autorisation de les préhistoriques. Savaient identifier les matériaux aptes à subir transport, sculpture et autres à travers le son. Alors, on peut supposer que c'est pure hypothèse. En réalité, si vous vous rendez dans les carrières périgourdines, hein, même de calcaire et autres, quand on sort des monolithes de grosses masses, la première chose que l'on fait, on prend une massette et on va taper sur le rocher. Bon, le rocher est encore humide, suivant la saison, donc il aura un son plus ou moins sourd, mais il va émettre un son qui va permettre à un professionnel d'identifier le matériel comme étant de première qualité, deuxième ou troisième qualité. À Paris, par exemple, ce son technique servait dans les carrières de Paris pour trancher sur ses qualités. Et les carriers disaient, on a le pif, le paf et le pouf. Et bon, ça peut prêter à rire, ça rappelle quelques personnages de bande dessinée, mais quand on a testé, le pif, effectivement, c'est le meilleur matériau, c'est celui qui est la pierre précieuse parisienne, qui va permettre de fabriquer des pierres tombales dans le liais, ou cette pierre lithographique. Le paf, ça serait la pierre, le moellon, la pierre de taille qui sert à monter les murs. Et le pouf est un bruit sourd, qui c'est du pour le stérile, pour la construction de route ou du remblai. Donc ces sons techniques sont très importants. Parce que si on se reporte à nouveau en préhistoire, lorsque on veut tailler du silex, on tape généralement sur les silex un petit peu avant. Et on reste à l'écoute du son émis par le silex pour savoir s'il va être propre ou impropre à la taille. Bon, mais dans d'autres régions, en partant de ce principe-là, des gens avaient dû comprendre, en particulier au néolithique, qu'en tapant sur des roches, on obtenait des sons avec des harmoniques qui étaient parfaites. Ce qu'on peut comparer aujourd'hui même à des cloches de bronze ou des cloches de verre, hein, des vérillons. Et donc ces sons, ils ont voulu les transporter avec eux. Donc transporter avec eux, c'est un peu comme des outils, hein, que l'on va sculpter et transporter avec soi. Donc il va falloir appréhender le son, le saisir, l'emporter avec soi pour communiquer avec les autres. Ça paraît banal. Moi, quand je dis que ces lithophones sont les premiers MP3 de l'humanité, c'est vraiment dans cette idée de communiquer, de transporter le son avec soi. Évidemment, on ne va pas enregistrer des sons. Mais le concept premier de ce transfert de connaissances musicales depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui existe encore. Et ce sont les seuls instruments musicaux connus de la préhistoire qui nous révèlent les véritables sons fossiles issus de la préhistoire. Quand je dis les premiers MP3 de l'humanité, même si aujourd'hui c'est un peu dépassé, mais c'est que la délivrance de ces sons est exactement le son d'origine que les préhistoriques nous ont légué. Ces sons, on peut les trouver sur des instruments sculptés, mais on a des pierres brutes aussi. On a par exemple en Bretagne, il y en a sûrement en Dordogne, mais il y en a aussi, j'en ai trouvé beaucoup en Indonésie, j'en ai trouvé en Afrique, des pierres brutes, ce sont des galets roulés énormes, certains font 2, 3 tonnes. Et à la surface de ces gros cailloux, si on n'y prête pas trop attention, on ne verra rien. Mais parfois on a des sortes de cupules ou de grosses vacuoles. Et on se rend compte que l'intérieur de ces vacuoles sont percutés à coups de pierre, hein, comme une sorte de bouchardage, comme on dit. Et si on répète l'histoire et qu'on prend un caillou et qu'on tape à l'intérieur de ces cupules, parfois on a un son qui apparaît. Et là c'est tout à fait magique. Et chose curieuse, on n'a pas toujours des sons attendu. C'est-à-dire, on va se dire, j'ai un caillou qui fait 4 tonnes, je vais taper dessus, je vais avoir un son délirant dans les basses, etc. Puis non, on va se retrouver en réalité avec des sons de lithophones beaucoup plus modestes, mais ça ne révélera rien de plus que ces sons-là. Quand je suis allé à Madagascar il y a quelques années, je suis monté sur les fameux tsingy, qui sont ces zones karstiques, ces grands calcaires découpés en lames, pointues et extrêmement coupantes. Et là, on se trouve sur moi, ce que j'estime être les plus grands lithophones de la planète. Et ces lames, qui peuvent avoir quelques mètres de hauteur à quelques centaines de mètres de hauteur, quand on ferme le poing très serré et que l'on tape dessus, émettent des sons comme des diapasons, avec des harmoniques qui peuvent durer comme ça sur 10, 15, 20 secondes. Et c'est mais incroyable, incroyable. Je me suis dit, quand on fait ça, on excite un peu les lémuriens ou les quelques animaux qui vivent autour, qui n'ont pas l'habitude d'écouter ces sons-là. Mais ça reste pour moi quelque chose d'absolument prodigieux. En 2004, le Musée de l'Homme a commencé le récolement de ses collections en vue de son déménagement vers le Jardin des Plantes pour la rénovation de l'intégralité de son bâtiment Place du Trocadéro. Et j'ai une amie qui était la responsable des collections de préhistoire, Odile Romain, et qui sort une pierre longue, comme une baguette de pain, un peu tordue, pareil, de couleur noire, bleutée, polie, légèrement luisante. Et en passant dans le couloir, j'aperçois cette pierre et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Et elle me dit, c'est un pilon saharien. Je dis, c'est bizarre, un pilon un peu pointu au bout, si on tape, on utilise l'outil verticalement, ça va chasser le grain plus que ça ne va le piler. Et puis sur le cylindre, qui est un peu difforme, je dis, ça ne correspond pas du tout à une molette qui est destinée à broyer le grain, les céréales. Je dis, donc il y a un problème, ça ne peut pas être ça. Donc je lui ai demandé de me confier l'instrument, et puis je l'ai emporté dans mon bureau, et j'ai commencé à taper dessus. Alors je vais faire une démonstration. Voilà, donc j'ai obtenu un son à peu près similaire à celui-là. Ce n'est pas l'instrument original, parce qu'il est au Jardin des Plantes, et là nous sommes au Musée de l'Homme, et les collections ne sont toujours pas arrivées dans nos labos. Mais le son qu'on en obtenait n'est pas terrible en soi, mais on sent quand même qu'il y a un petit quelque chose. On n'est pas sur un bruit. Hein, on est vraiment sur quelque chose de plus clair, plus distinct. On sent qu'il y a des harmoniques. Et là, je me suis posé le problème. Qu'est-ce qui se passe? Mais comment démontrer qu'il pourrait peut-être s'agir d'instruments de musique? À l'époque, on parlait de pierre musicale, pierre sonore, lithophone, phonolithe, on mélangeait tout ça, on ne savait pas vraiment où on en était. On savait que les lithophones existaient, il y a des lithophones du Togo qui étaient dans différents musées, ça on le savait parce que la tradition et les ethnologues, ethnographes qui étaient passés par là, avaient pu récupérer des ensembles de ces lithophones laminaires et ils les ont déposés dans les musées. Et il y a eu une grande découverte en 1954 par Georges Condominas en Asie du Sud-Est, où il a rapporté 11 pierres lamellaires, laminaires, musicales, archéologiques, datées d'à peu près 5000 ans. Et ça a révolutionné la paléomusicologie et ça a vraiment déclenché des recherches sur les lithophones. Donc je suis ce premier lithophone, ce pilon saharien, je l'ai rapporté dans mon bureau et en tapant dessus, donc je me suis dit ouais super, mais insuffisant quoi. Donc ensuite je l'ai posé sur ma table, voilà, j'ai tapé dessus, j'ai dit bon c'est un peu pauvre, c'est pas avec ça qu'on va faire, c'est pas avec ça qu'on va faire des instruments, c'est pas vrai, la musique. quand on a un instrument musical, on va effectivement chercher des sons clairs, donc des harmoniques, mais il me faut de la résonance. Et là, le bien m'a pris de descendre dans les poubelles du Musée de l'Homme, et j'ai trouvé effectivement des coussinets, donc c'était des mousses qui étaient destinées à caler les œuvres pour leur transport. J'ai découpé ça en petits rectangles, j'ai posé mon instrument dessus, voilà, donc j'ai testé à la main, j'ai posé mon instrument dessus sur les petits coussins, et là j'ai tapé. Autant vous dire que je ne m'y attendais pas. Heureusement qu'il y avait un mur derrière moi. Je me suis redressé et je me suis retrouvé plaqué contre le mur. Le cœur battait à la chamade. Et je lui dis « Ah, je crois que je tiens quelque chose !» Et là, j'ai dit « Waouh !» Et cette première sensation que j'ai eue, que j'ai même à chaque fois que je retape sur les instruments, lorsque j'ai des personnes en face de moi et que je leur fais la démonstration, je les vois tous se redresser, la bouche ouverte. Ah, c'est pas possible, c'est creux immédiatement. C'est les questions qu'on se pose. Est-ce que c'est creux? C'est du métal? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, c'est vrai que passer d'un son comme celui-là à ce son-là, c'est quelque chose qui n'est pas banal. Et je me suis dit, bon, ok, c'est du gadget, on va pas pousser les choses trop loin, on va voir si l'affaire se répète maintenant. Donc je suis parti dans les réserves du Musée de l'Homme, au Muséum National de l'Histoire Naturelle, et on a trouvé une trentaine de lithophones, de supposés lithophones. Donc on les a posés de la même manière sur des coussins, on les a essayés sur la table, à la main, etc., sur les coussins, et on a obtenu différents sons. Et bon, on s'est dit super, on a des sons. Donc on sait qu'il y a des résonances, on a entendu différentes hauteurs de sons, et on n'a pas perçu tout de suite que certains instruments avaient une résonance extrêmement courte, et d'autres avaient des résonances plus ou moins longues. Mais bon, c'était déjà un premier pas, et maintenant se posait le problème, une fois qu'on a extrait le son, comment peut-on jouer et exploiter le matériau? Puisqu'on a donc une circulation d'ondes transversales à l'intérieur de la matière, comment essayer de gérer quelque chose qui correspond à ce qu'on appelle des cloches de pierre, et qui est donc classé dans la famille des idiophones, donc des instruments qui se suffisent à eux-mêmes, il suffit simplement de taper dessus, et il n'y a pas besoin de rajouter une caisse de résonance derrière. Donc c'est le phénomène classique des cloches et du fameux triangle que tout le monde connaît dans les instruments, dans les orchestres symphoniques. Donc je suis parti du côté de Guéret, près de Limoges, et là-bas on a fait réaliser deux carottes de pierre. Alors les carottes c'est destiné à faire de la géologie en général, donc on perfore avec un trépan le sol, et au milieu du trépan, il reste un trou, et dans ce trou, qui peut avoir un diamètre variable, moi j'ai obtenu donc un cylindre de pierre d'un diamètre à peu près 5 cm de diamètre. Puis, juste à côté de cette première carotte, j'en ai fait réaliser une seconde, donc dans le même matériau, avec la même densité, même longueur, et je suis revenu au Musée de l'Homme pour essayer de comprendre maintenant pourquoi et comment fonctionnent ces instruments. Donc, sur le premier cylindre, qui est parfait, je me suis rendu compte que lorsqu'on prend un instrument et qu'on le lâche sur les coussins, il prend systématiquement une position de référence. Ça, c'est une particularité des lithophones. Donc, je me suis dit, je vais prendre à l'apex, c'est-à-dire au sommet de l'instrument, je vais positionner un point de référence, et à partir de là, je vais agir par symétrie. Donc j'ai calculé le point central du cylindre, Voilà. Et à partir de ce son-là, j'ai découpé virtuellement le lithophone expérimental, et tous les centimètres, j'ai pu taper dessus. Et je me suis rendu compte que si on suit bien l'axe principal du cylindre, le son est isophonique. Iso, ça veut dire même, a le même son tout le long de cette ligne que j'ai appelée au début ligne isophonique. Bon, maintenant, ce lithophone, j'ai tapé sur la section. Elle est parfaitement ronde. Et en tapant sur la section, qu'est-ce qu'on obtient ? Voilà, on obtient un son isophonique. C'est-à-dire que je suis isophonique dans la longueur du cylindre et tout autour de la section de ce lithophone. Bon, alors jusque-là, c'est un peu décevant. On se dit, mince, est-ce qu'on peut moduler le son ou pas, etc. Et visiblement, c'est un lithophone. Si on y touche, on va modifier des choses, mais on ne sait pas trop quoi. Donc, je me suis rabattu sur le deuxième lithophone, et qui, lui, a été scié et fasté sur une partie de son diamètre, de sa section. Et à l'origine, j'avais un son qui était identique à celui-là. Et j'ai obtenu, en sectionnant ce deuxième lithophone, ce son-là. Donc le son est un petit peu inférieur. Et j'ai repris le même principe que sur le premier lithophone à section ronde. J'ai donc une ligne isophonique dans sa longueur. Et en tournant autour du lithophone, on obtient... On obtient non plus un seul son, mais deux sons. C'est-à-dire que on a compris à ce moment-là que le diamètre du cylindre, suivant qu'il est grand ou plus petit, va modifier les ondes transversales et on va obtenir une ditonicité dans l'instrument qui le rend donc un tout petit peu plus riche qu'un lithophone monotonique à section parfaite. Voilà. Et dès qu'on le déforme, on obtient une ditonicité. Alors, à partir de là, je lui dis, mais super, donc on est parti d'une section ronde à une section ovale, on a la ditonicité, et cette ditonicité est parfaitement audible. Mais maintenant, si on passe d'une section ronde à ovale, et que cet ovale, on le déforme pour devenir laminaire, c'est-à-dire beaucoup plus fin, c'est-à-dire qu'avoir un diamètre, par exemple, de 5 cm, pour une épaisseur de 1,5 cm, donc la différence de ton entre les deux va fortement augmenter, et au lieu d'avoir des tiers de ton, quarts de ton, on va avoir des demi-tons, et puis on va monter, on va avoir donc des tierces, des quarts, et monter encore plus haut. Plus on aplatit en fait symboliquement l'instrument, plus la différence de ton va varier, et surtout, il sera plus difficile de jouer sur ces laminaires, sur les deux zones isophoniques. Par exemple, voilà, là je tape sur la face plane d'un lithophone laminaire. On entend le i qui monte extrêmement haut et qui évidemment ramène au premier ton qui était celui-là. Donc on ne va pas jouer sur le bord, sauf peut-être pour des effets musicaux, on ne va pas jouer sur le bord d'un lithophone laminaire. On va éviter. Ah, j'arrive pas à l'obtenir évidemment. Enfin bon. Et tout simplement parce que c'est pas facile et surtout on risque de casser l'instrument. Donc, pour revenir au lithophone cylindrique, une des raisons pour lesquelles on les trouve toujours tout seuls abandonnés dans le désert de sable, eh bien c'est que probablement, c'est pas qu'ils aient été perdus, je pense, mais ils étaient entourés d'autres instruments. Et que ces instruments qui étaient des membranophones, donc en bois et peau par exemple, des harpes en bois et tendons, ou d'autres types d'instruments, des flûtes en os, malheureusement le vent du désert les a fait disparaître, le chaud, le froid, etc. Et finalement, qu'est-ce qui restait de l'ensemble instrumental qui était en place? Simplement tout ce qui était en pierre. Donc on peut supposer qu'à l'époque du néolithique, ces pierres étaient donc associées à d'autres instruments, mais pour l'instant, on n'a toujours pas retrouvé les instruments qui étaient autour. Donc ça reste toujours des suppositions. Et on les a toujours trouvés à l'extérieur des grottes et abris sous roches sahariens, donc perdus vraiment dans le désert. Et c'est des concours circonstances heureux qui font que certaines personnes arrivent à les trouver. Alors de temps en temps, je reçois des coups de fil et des gens en ont trouvé et ils me les photographient et ça me permet moi de remplir mes cartes et savoir les zones de répartition de ces instruments en Afrique. Et je croyais au départ, avec les collections du Musée de l'Homme, que ces lithophones cylindriques sahariens transportables, parce que l'analyse pétrographique, c'est-à-dire qu'en étudiant les roches, on s'est rendu compte que certains d'entre eux avaient voyagé plus de 1500 km de la carrière supposée de chloritochistes, par exemple. Donc, ils étaient, du fait qu'en plus, leur diamètre, quand ils sont cylindriques, est toujours un diamètre suffisant pour être tenu à la main, c'est-à-dire qu'ils tiennent dans la main avec les doigts qui se touchent, par exemple le pouce sur le médium, ou les doigts un peu plus écartés, mais ils sont préhensibles, on ne peut jamais les laisser tomber. Donc ça, ça montre bien qu'il y avait des règles à suivre et que ces instruments, étant manipulés à l'époque, devaient être capable de transporter des sons à des distances considérables. Comment faire pour extraire ce son? Donc, comment peut-on fabriquer un lithophone? Pour les lithophones cylindriques, là c'est difficile, on n'est plus à quelques heures ou quelques jours de fabrication. Là, on peut passer sur des mois de fabrication, voire des années en termes de fabrication. Par exemple, si on a des chloritochistes, les chloritochistes peuvent donner effectivement des grosses lames, mais on sait que le son est là, mais il va falloir le rendre transportable. Donc, il va falloir trouver une préforme au départ, et que cette préforme soit le plus avancée possible pour obtenir une forme cylindrique. Ensuite, on va prendre un percuteur en pierre, et ce percuteur en pierre, eh bien, qui est beaucoup plus dur que la roche qu'on veut sculpter, va taper sur la roche, et en écrasant grain par grain la roche, on va la modeler, la sculpter, pour lui donner la forme qui approche le plus le cylindre, et avec des proportions qui correspondent à celles attendues. C'est-à-dire qu'il faut que ça tienne dans la main, et que ce soit le plus long possible pour tenter d'avoir de la résonance. Donc, quand on observe ces lithophones, et c'est là une des grandes différences avec les molettes qui servent à broyer ou à piler le grain, c'est qu'on a des coups de percussion parfaitement visibles sur l'ensemble de ces instruments, que ce qu'on appelle du bouchardage, du piquetage, hein, c'est du martelage en série, et ensuite, éventuellement, pour certains d'entre eux, un léger polissage. Mais en général, ils sont rarement polis. Ceux qui sont polis l'ont été, mais plus tardivement, par les effets du sable, hein, le sablage des vents du désert, qui leur donne ce poli mat à brillant. En général, la texture reste, on voit les milliers de petites cupules d'impact à leur surface. Donc, la plupart d'entre eux, quand on les regarde, toutes ces petites piquetages ne proposent pas au regard d'usure particulière qui laisse sous-entendre qu'ils n'ont jamais été percutés. Apparemment. Mais pour certains des lithophones, et heureusement j'en ai trouvé, eh bien il y a quand même des traces de polissage, donc d'usure, liées à un jeu, et que ce jeu s'est effectué en trois points particuliers sur ces cylindres. C'est-à-dire que ces quelques lithophones ont démontré qu'on jouait sur les points les plus marquants de l'instrument, ceux qui donnent et révèlent les sons les plus parfaits de ces cylindres. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on écoute réellement une ligne isophonique, là j'ai un point où ça pêche. Je continue dans la longueur. Et là à nouveau, ça pêche. Et je finis jusqu'au bout. Et lorsque, à l'endroit où ça pêche, je mesure de la pointe de l'instrument jusqu'à l'endroit où ça ne marche pas très très bien, que je le reporte en symétrie sur le côté opposé de l'instrument, eh bien les deux points se situent exactement au même endroit. Alors ça, c'est très intéressant parce que au départ, on avait cru que ces instruments étaient isophoniques et avaient une ligne isophonique qui définissait d'ailleurs, parce qu'on fait le tour, un plan isophonique. Donc il y a deux plans isophoniques croisés quand ils sont déformés. Mais là, il y a un endroit où ça pêche. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en réalité, le son donc, qui circule à l'intérieur de l'instrument possède, donc, pour ceux qui connaissent, des minima d'amplitude et des maxima d'amplitude. Et comme ce sont des ondes transversales, si on part du point le plus moche de l'instrument, eh bien on se rend compte que ça dessine une sorte de grand 8 hein, à trois boucles, et qui passe par ces minima d'amplitude, et que ça définit sur les parties extrêmes, là, et la partie centrale, ici, donc un son extraordinaire, et qu'au milieu, on a des sons qui pêchent. Tout à l'heure, je disais qu'en tenant un instrument à la main, on éteint la résonance. Mais si je prends l'instrument sur ce minima d'amplitude, l'instrument se remet à jouer. Donc, je pense que ça avait dû être compris, d'autant que, par exemple, en Éthiopie, on a des lithophones laminaires qui sont suspendus à l'entrée des temples. Et elles sont suspendues. Quand on regarde bien l'endroit où c'est suspendu, ça a peut-être été fait de manière empirique, c'est-à-dire juste parce qu'on sait, mais on ne l'explique pas. Sur ces fameux points, ces minima d'amplitude. Comme ça, ça permet de conserver une qualité de son maximale quand on sait sur quoi on joue. Donc, ça nous amène maintenant sur la compréhension du jeu de l'instrument. Comment... Y a-t-il donc des proportions à respecter si on veut obtenir une qualité sonore adéquate? Donc dans les collections du musée de l'Homme, on a trouvé des lithophones malheureusement cassés. Il y avait des lithophones cassés, pas cassés, mais on a choisi les cassés et je les ai étudiés un par un, justement pour savoir à quel moment la pierre pouvait commencer à résonner. Et il se trouve que en mesurant le diamètre du cylindre et en le reportant 4 fois et demi dans la longueur, à ce moment-là, on commençait à avoir de la résonance. On a reporté ces mesures sur l'ensemble des lithophones intacts que nous avions, et à chaque fois, au-delà de 4 fois et demi cette proportion, on avait de la résonance. Et plus on va vers 1 sur 5, 6, 7, 8, plus la résonance va durer et on aura un instrument qui donc teintera avec une résonance magnifique sur 8, 10, 12, 15, on peut aller 20 secondes. Quand on observe un lithophone cylindrique, ça c'est une idée qui m'est venue parce que je suis spéléologue, qui en Dordogne n'a pas été visiter son trou, donc, et ça m'a rappelé les stalactites et les stalagmites. Et là, je me suis dit, waouh! Et si, je sais, puisque je pratique encore la spéléo scientifique, et si, je m'étais posé le problème, les principes lithoacoustiques des lithophones transportables cylindriques sahariens pouvaient être appliqués aux stalactites et aux stalagmites. Donc, je suis allé au gouffre de Proméissac, au Bug, et j'ai rapidement obtenu l'autorisation. Ils ont été charmants, ils m'ont dit voilà, on vous offre le site et ben, exercez vos talents et on va bien voir. Donc, à Proméissac, j'arrive avec deux paires de maslottes et j'ai dit oh, ça va être fantastique. Et quand je suis arrivé, que des bruits. Mais j'en aurais pleuré, j'ai dit mais c'est pas vrai. J'avais mes a priori et je me suis dit mais. Les stalactites et les stalagmites doivent toutes jouer. C'est pas possible. Et en fait, non. Le gouffre m'a montré que, ben non, ça marche pas systématiquement. J'en ai vraiment pleuré. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'est mince. Ça a détruit mes illusions, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. La calcite et l'aragonite doivent produire des sons, quoi. Bon. Et puis, je me dis, non, c'est toujours une expérience. Et à ce moment-là, je me suis dit, par exemple, à Pechmerle, dans la grotte de Pechmerle, il y a des peintures il y a des stalactites, et on les sait, elles ont été percutées, Breuil en parlait déjà, et d'autres préhistoriens, grands prestigieux, ont bien vu que ces stalactites, stalagmites avaient été percutées. Mais on n'a jamais expliqué, on a expliqué que c'était des instruments de musique, on avait compris, mais on n'a jamais expliqué l'instrumentalité, c'est-à-dire où jouer et comment jouer sur ces stalactites et stalagmites. Quelle relation il pouvait y avoir entre les stalactites, stalagmites et les peintures, gravures qui sont sur les parois. Et de poser la question, pour une fois, est-ce que l'homme préhistorique a investi temporairement le fond de ses grottes pour simplement mettre des peintures, ou bien est-ce qu'il a trouvé dans certaines de ces grottes, c'est pas le cas de Lascaux, il n'y a pas de stalactites et de stalagmites, mais trouvé des sons magnifiques, et à ce moment-là, adapter les parois et écrire sur les parois quelque chose qui est en relation avec le son. C'est-à-dire qu'on a affaire aux premiers audiovisuels de l'humanité. Ce sont les premiers théâtres, peut-être aussi, parce qu'il devait y avoir des mimes, il devait y avoir des mises en scène avec tout ça, et qui devaient rendre des soirées absolument fantastiques et prodigieuses. On a bien vu cette réaction-là lorsqu'on a organisé ce concert au Muséum national d'histoire naturelle au Jardin des Plantes. La pièce s'appelait « Anaé et les pierres musicales » avec l'Orchestre national de France. Et on a animé, comme ça, un concert écrit par Fénelon, sur un texte que j'avais écrit, mais c'était surtout pour mettre en œuvre les lithophones. Et on a présenté pour la première fois au monde un ensemble lithophonique, dépareillé mais rassemblé, pour faire comprendre que ces pierres existent et que ça peut donner lieu à un concert qui a été écrit et qu'on pourrait reproduire dorénavant. Et quand on a commencé à jouer sur les lithophones, les gens ont tous marqué une certaine stupeur, une surprise inattendue. Ils s'attendaient évidemment à des choses, mais de voir ça, comme on dit, ça les a complètement intrigués et ils ont trouvé une certaine fascination, un immense plaisir à écouter ce concert. Donc maintenant, si on se reporte à la préhistoire, on peut imaginer qu'effectivement, le rapport entre le son, l'image et l'homme devait être quelque chose d'absolument hallucinant. On sortait d'un contexte aérien, on était dans le noir total, avec ces ambiances qui résonnent, avec des échos en plus, etc. Donc c'était quelque chose de magnifique. Mais jusqu'à présent, on avait travaillé sur de l'acoustique architecturale dans les grottes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on tape sur une stalactite, on va chercher la résonance, tous les effets classiques des sons et la circulation des sons dans des espaces clos. Mais personne n'avait travaillé sur l'instrumentalité même des stalactites et stalagmites. Donc moi, j'ai posé le problème. Voilà. Est-ce que l'image est arrivée parce qu'on a trouvé du son? Ou bien, est-ce que le son a été trouvé par hasard, il se trouvait là par hasard, et donc bah, les gens les ont utilisés parce que bah, ça faisait mieux. Donc c'est une autre manière de regarder les comportements de l'homme au sein de ces milieux endokarstiques, c'est-à-dire au sein des grottes, enfermées dans les grottes. Et donc bah, je me suis dit, il faut trouver un endroit où faire une démonstration, naïve certes, mais une démonstration. Donc j'ai fait quelques recherches et au département, quelqu'un m'a dit « Ah, y a la grotte de Tabouhan qui se trouve à Java, au sud de Java, et il y a une grotte dans laquelle, régulièrement, depuis plusieurs siècles, eh bien, on tape sur des stalactites, stalagmites, et c'est accompagné de chants, de tambours, éventuellement de flûtes, etc. Et il suffit de louer les services de l'orchestre, et ils se mettent à jouer dans la grotte. J'ai dit, mais c'est là qu'il faut que j'aille. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont tapé sur les stalactites, c'était des stalactites uniquement, et ils tapaient sur quoi? Sur les plans isophoniques A et B, c'est-à-dire... Et il y avait comme ça plusieurs stalactites fortement abîmées, on voyait vraiment qu'ils avaient un peu forcé les coups de marteau de maillage dessus, mais c'était bien impacté, et impacté exactement sur les plans A et B donc de ces instruments. Et là, je dis, mais ça y est, cette fois-ci, on vient de faire la démonstration de la musicalité de ces instruments de musique fixés à des parois ou au sol. Et donc, on a fait reculer en même temps les datations sur l'origine des lithophones. Donc, les lithophones, pour l'instant, dits transportables, comme ceux du Sahara, ont à peu près partent de 8000 à 2005 avant Jésus-Christ. Et là, on est sur du... on peut remonter maintenant, on le sait, puisque à travers Peshmerga, mais il doit y avoir d'autres grottes qui n'ont pas encore été testées et observées plus en détail. On doit remonter à 45 000 ans. Mais si on peut, à mon sens, presque remonter. On pourrait espérer pouvoir remonter peut-être à 100 000 ans. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Parce que si, au néolithique, on jouait sur des lithophones cylindriques ou laminaires, on sait qu'à l'époque, il y avait... une foultitude d'autres instruments, les tambours, flûtes, on a retrouvé des quantités de flûtes maintenant. Elles étaient très rares et on se rend compte qu'en fait, elles étaient beaucoup plus répandues qu'aujourd'hui. Sur des os, des tarses etc., d'animaux qui ont été percés pour faire des sortes ou des appos ou des sifflets ou d'autres choses, on a trouvé comme ça une déclinaison d'instruments qui s'est fait mais très rapidement sur les périodes néolithiques. Et malheureusement, sur les périodes paléolithiques supérieures, on a beaucoup moins de choses. Mais il suffirait de se pencher un peu plus sur le problème, d'essayer de se concentrer sur le problème de la musique, et je reste persuadé que beaucoup de découvertes sont à venir, et j'ai espoir que les générations de jeunes préhistoriens vont pouvoir se faire plaisir tout autant que moi lorsque j'ai découvert tout ça.